Ellen White, entre un de ses fils et de l'épouse de ce fils qui est de l'autre côté. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Ellen White, c'est une dame qui a joué un rôle très, très grand dans les débuts de l'Église adventiste aux USA. Elle est née il y a déjà bien longtemps, en 1827. Vous voyez que la mode était un peu différente. Et cette photo, on a très peu de photos de Madame White. Cette photo est la dernière que l'on a trouvée, il n'y a pas tellement d'années, et une des plus anciennes, puisqu'elle date de 1905. Madame White est née en 1827, elle est morte en 1915. Elle avait donc 17 ans en 1844. 1844, vous savez, c'est le début de notre Église, avec la grande déception de tous ceux qui attendaient le retour de Jésus au mois d'octobre. C'était une époque qui ne ressemble pas tellement à la nôtre. C'était en plein de l'époque victorienne, où la morale était très importante, les formes étaient très importantes. Et Madame White était une simple jeune fille qui n'était ni une historienne, ni une scientifique, ni même une théologienne, mais qui a eu une influence déterminante dans l'histoire de notre Église. Elle a écrit beaucoup de choses, elle a écrit des livres, vous en connaissez certainement un certain nombre, elle a écrit énormément de lettres que l'on a conservées, elle a écrit des articles de journaux, et à partir de ces différents écrits, on a fait ce qu'on appelle des compilations, c'est-à-dire que des éditeurs ont rassemblé plusieurs morceaux venant de toutes ces sources pour traiter d'un sujet particulier. Tout ça se trouve de façon intégrale en anglais sur un site internet qui est consacré à Madame White, où on peut lire tous les passages de ses livres, de ses articles de journaux et de ses lettres. Avant d'aller plus loin, j'aimerais souligner une chose. C'est l'influence de nos cultures. La culture de Madame White n'était pas la nôtre, parce qu'elle vivait il y a presque deux siècles maintenant. Et parmi nous aussi, il y a des différentes cultures qui se côtoient. Alors je dirais, il y a des cultures où l'élément essentiel est le respect des anciens, le culte des ancêtres parfois, où tout ce que l'on cherche, c'est à répéter aussi exactement que possible ce qu'ont fait ceux qui nous ont précédés. C'est une coutume, une culture où on continue à faire ce que le passé a fait. Et puis il y a un autre aspect de la culture qui s'oriente vers le futur plutôt, qui essaye de découvrir des nouvelles choses, de progresser. Et entre ces deux cultures, il y a parfois des chocs parce qu'évidemment, les priorités ne sont pas les mêmes. Madame White a souvent été invoquée pour justifier un certain immobilisme dans notre Église. Pourtant, elle a fait des déclarations tout à fait surprenantes qui sont parfois bien en avance sur la mentalité de ce qui se passait à son époque et même sur beaucoup de nos mentalités à nous maintenant, adventistes du XXIe siècle. Pendant l'été, j'en ai découvert quelques-unes de ces déclarations et je pensais que ce serait utile de les partager avec vous. Sur quoi fonder notre foi? Quelles sont les bases de notre foi? Madame White a dit ceci. Voilà une première déclaration. Dieu ne nous demande jamais de croire sans nous donner des preuves suffisantes sur lesquelles fonder notre foi, son existence, son caractère, la véracité de sa parole sont tous établis sur base de témoignages qui font appel à notre raison, et ces témoignages sont abondants. Pourtant, Dieu n'a jamais éliminé la possibilité du doute. Notre foi doit reposer sur ces évidences et pas sur une démonstration ferme comme on le fait en mathématiques. Ceux qui veulent douter en auront l'occasion, tandis que ceux qui désirent réellement connaître la vérité trouveront une foule de raisons évidentes sur lesquelles baser leur foi. Qu'est-ce qui est important dans cette déclaration? Madame White nous demande de faire appel à notre raison, d'étudier attentivement la Bible, de ne pas avoir peur de creuser des questions difficiles, bref, d'être rationnel. Elle le dit clairement, l'existence de Dieu, son caractère, la véracité de sa parole seront établies par des témoignages qui font appel à notre raison. Elle parle de témoignages, mais elle insiste ensuite en disant qu'il ne s'agit pas de preuves mathématiques. On ne peut pas prouver mathématiquement que Dieu existe, que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. Mais on a des impressions, des convictions, des arguments sérieux que nous pouvons mettre dans la balance et qui peuvent aider à forger notre croyance. Mais malgré cela, il est permis à chacun de douter. Et je crois qu'il faut surtout ne pas culpabiliser ni soi-même ni les autres quand à certains moments on a des instants de doute où l'on ne sait plus très bien où l'on en est. Ces instants peuvent être fertiles si on les met à profit pour creuser, pour réfléchir, pour discuter, pour développer notre connaissance de la parole de Dieu. Les arguments ne force pas à croire. La croyance religieuse, c'est le résultat d'un choix. Et un choix, c'est toujours quelque chose qui laisse une certaine part d'impondérable. Le choix d'un conjoint, le choix d'un métier, vous ne pouvez pas traiter ça avec des équations mathématiques. Vous avez des arguments pour ou contre, mais à partir de ces arguments, c'est une relation vivante qui bouge, qui s'anime et... Il faut réfléchir, bien sûr, mais tout ne sort pas de la réflexion. Une chose extrêmement importante sur laquelle Madame White a beaucoup insisté, c'est sur le fait que la connaissance religieuse est une connaissance progressive. Il s'agit sans doute de l'idée la plus importante qui est consécutive à la précédente. Si on réfléchit, si on utilise sa raison, si on étudie, si on découvre de nouveaux enseignements, on se trouve amené à changer certains de nos points de vue, ce qui fait évoluer les connaissances religieuses. C'est déjà extrêmement visible dans la Bible. Quand on parcourt l'Ancien Testament entre la Genèse et Malachie, il y a des tas de choses qui changent parce que la compréhension de Dieu a évolué à travers les prophètes et ainsi de suite. Et puis si on continue avec la venue de Jésus, on découvre encore beaucoup de nouvelles choses et on peut aller ainsi jusqu'à l'Apocalypse qui nous donne un message où Jésus est employé par Jean pour donner de l'espoir aux chrétiens de Rome qui étaient persécutés à son époque. À chaque époque correspond une croissance de la connaissance. Regardez ce que dit Madame White. Chaque fois que le peuple de Dieu croit en grâce, il reçoit continuellement une compréhension plus claire de sa parole. Il discerne des lumières et des beautés nouvelles dans ses saintes vérités. Ce fut le cas dans l'histoire de l'Église à toutes les époques, et cela continuera donc jusqu'à la fin. Mais si la vie spirituelle véritable décline, il y a toujours à ce moment-là une tendance à cesser de progresser dans la connaissance de la vérité. Les gens se contentent de la lumière déjà reçue de la parole de Dieu et découragent toute nouvelle recherche dans les Écritures. Ils deviennent conservateurs et tentent d'éviter les discussions. Je pense que c'est une déclaration importante de Madame White. Nous avons à discerner constamment des connaissances nouvelles. Et si on reste là où on est, on devient des conservateurs qui ne peuvent plus progresser. Un petit mot ici à propos d'une expression qui est souvent employée dans notre Église et par Madame White, la vérité présente. Je ne sais pas ce que ça représente pour vous, cette expression, la vérité présente. Dans la Bible, en hébreu, le mot qui est traduit par vérité, c'est la qualité de ce qui a été éprouvé et qui s'est révélé solide. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est une qualité de quelque chose qui a été éprouvé et qui se révèle solide. Et quand on parle de quelqu'un, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. La vérité, c'est une relation avec un Dieu sur lequel nous pouvons compter, sur un Dieu qui s'est révélé solide. La vérité présente, ce n'est pas la vérité d'hier, et ce n'est pas non plus celle de demain. C'est une vérité qui est continuellement actualisée, comprise, crue et vécue par nous à un moment, au moment où nous sommes. C'est une relation avec Dieu, et vous savez qu'une relation, ça ne peut qu'évoluer, bouger, changer, sinon la relation est morte. Prison Truth, la vérité présente, c'était le titre du premier journal adventiste qui a été publié à partir de 1849, 5 ans après les débuts de l'Église. Et c'est ce journal qui a changé de nom au cours des âges, qui est devenu la Review and Herald, qui est devenu maintenant l'Adventist Review. Mais le premier titre de cette revue, c'était « The Present Truth ». Nous n'avons jamais toute la vérité. Il y a toujours plus à apprendre, à savoir et à comprendre. Madame White a écrit beaucoup de ses textes sur l'évolution des connaissances bibliques en 1892. Elle était à ce moment-là en Australie. 1892, c'est seulement 4 ans après 1888. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, 1888. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial ? Wagener, tu dis ? Pardon ? Minneapolis. Et Minneapolis, c'est une ville, mais qu'est-ce qui s'est passé à Minneapolis ? Une conférence générale. Et qu'est-ce qui s'est passé à la conférence générale ? Voilà. Pendant tous les débuts de notre Église, on avait mis beaucoup l'accent sur l'obéissance à la loi, tout particulièrement en ce qui concerne le sabbat. Et vers 1888, deux jeunes gens, ce n'étaient pas des vieillards, des pionniers du début, c'était des jeunes, l'un s'appelait Jones et l'autre s'appelait Wagener, et ils ont discuté à cette conférence générale pour essayer de convaincre les frères qu'il fallait mettre l'accent sur le salut par la grâce, que c'était ça le véritable message de l'Évangile. C'est quelque chose qui a beaucoup bouleversé l'Église, il y a eu beaucoup de discussions, de disputes, de conflits à ce propos-là. Mais Madame White est alors intervenue pour dire « ce sont ces jeunes gens qui ont raison ». Et petit à petit, l'idée s'est ancrée dans les croyances de l'Église adventiste. Donc beaucoup de textes écrits peu de temps après cet épisode-là. Elle était en Australie, elle avait été envoyée en Australie un petit peu en pénitence, disons, et elle a beaucoup réfléchi à ces problèmes. Le peuple de Dieu discernera de nouvelles lumières et de nouvelles beautés dans sa parole, voilà ce qu'elle dit. Ce fut ainsi dans toute l'histoire de l'Église, à chaque époque, et cela le restera jusqu'à la fin. Il y a des membres qui se reposent sur les lumières déjà reçues et qui s'opposent à de nouvelles recherches dans les Écritures. Ils deviennent conservateurs. Bon, il ne faut pas se cacher que c'est une problématique qui est toujours actuelle dans notre Église actuellement. Il y a toujours une tendance entre le fondamentalisme, le rappel du passé, le respect du passé et le désir d'aller de l'avant, d'évoluer, de comprendre mieux l'Écriture. Tout ça dans le cadre d'une culture qui change et qui est orientée maintenant vers l'avenir et le progrès. Un autre passage intéressant. Le fait qu'il n'y ait pas de controverse ni d'agitation parmi les membres de l'Église de Dieu ne devrait pas être considéré comme une preuve absolue qu'ils sont fermement attachés à la saine doctrine. Il est à craindre qu'ils ne soient pas capables de distinguer clairement la vérité de l'erreur. Quand aucun nouveau questionnement ne demande à être soumis à l'étude de l'Écriture, quand aucune divergence d'opinion ne surgit, poussant les gens à faire des recherches personnelles dans la Bible pour s'assurer d'être dans le vrai, il y en aura beaucoup qui, comme dans les temps anciens, resteront attachés à la tradition et adoreront sans savoir ce qu'ils adorent. Une église où il n'y a pas de controverse, il n'y a pas de discussion, où tout le monde est d'accord, c'est une église qui est morte. Et je crois qu'il faut respecter profondément ces discussions, ces tensions parfois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près 2 ans, 2 jeunes filles de l'Université catholique de Louvain, étudiantes en sociologie, étaient venues faire une observation de notre église pendant quelques sabbats. Dans leur mémoire qui a été présentée à l'université par après, la toute première chose qu'elles décrivent, c'est leur étonnement de voir comment l'école du sabbat pouvait être un moyen de discussion ouverte, où chacun avait le droit de donner son avis, où on ne se jugeait pas, où on accueillait les opinions des autres. Merci. C'était vraiment la toute première chose qui les a frappés. Je crois qu'effectivement, l'école du sabbat est un moment privilégié pour mettre ces paroles en accord. Il est normal qu'il y ait des tensions. Si tout le monde est d'accord, il faut se méfier. Quand il n'y a aucun nouveau questionnement, dit Mme White, aucune divergence d'opinion. Il ne faut pas se fier aux traditions, mais faire des recherches personnelles et ensemble dans les Écritures. Mais Ellen White va encore plus loin. Elle dit encore, il n'y a aucune excuse pour quiconque de défendre la position qu'il n'y a plus de vérités supplémentaires qui doivent être révélées et que toutes nos interprétations des Écritures sont sans erreur. Le fait que certaines doctrines aient été tenues pour vraies durant de nombreuses années par notre peuple n'est pas une preuve que nos idées sont infaillibles. Le temps ne transforme pas une erreur en vérité, et la vérité mérite d'être juste. Aucune doctrine qui est vraie ne perdra quoi que ce soit à être soigneusement investiguée. Ne pas se bloquer sur certaines positions parce qu'on a toujours cru ça. Croire quelque chose depuis longtemps, ce n'est pas en faire une vérité éternelle, nous dit-elle. Encore un autre passage. Des opinions longtemps chéries ne doivent pas être considérées comme infaillibles. Peu importe si les gens les ont considérées vraies pendant longtemps, si elles ne sont pas clairement soutenues par les Écritures, elles devraient être rejetées. Ceux qui recherchent sincèrement la vérité ne devraient pas hésiter à soumettre leur position à l'examen et à la critique et ne seront pas agacés si leurs opinions et leurs idées sont contredites. Accepter la controverse, accepter la discussion, réfléchir ensemble pour progresser ensemble. Et elle continue, « Nous avons beaucoup de leçons à apprendre et beaucoup, beaucoup d'autres à désapprendre. Seul Dieu et les cieux sont infaillibles. Ceux qui pensent qu'ils n'auront jamais à changer d'avis, à abandonner un point de vue qu'ils chérissent, ces gens-là seront déçus. Le fait d'avoir cru quelque chose pendant longtemps ne fait pas que cette chose soit forcément juste. » Sir White nous invite à être prêts à ouvrir le débat sans craindre le jugement ou les critiques de ceux qui nous entourent. Nous avons beaucoup de choses à apprendre et beaucoup, beaucoup à désapprendre, nous dit-elle. Et c'est vrai, même quand des opinions sont soutenues par des dirigeants dans l'Église. Elle nous dit au passage suivant, la réprimande du Seigneur sera sur ceux qui veulent être les gardiens de la doctrine et qui ferait barrage à la venue d'une plus grande lumière pour des hommes. La réprimande du Seigneur sera sur ceux qui voudraient être les gardiens de la doctrine et qui ferait barrage à la venue d'une plus grande lumière pour les hommes. Il y a un grand travail à faire et Dieu voit que nos leaders ont besoin d'une plus grande lumière afin de pouvoir s'unir aux messagers qu'il envoie pour accomplir le travail qu'il a prévu qu'il fasse. Être prêt à accueillir de nouvelles lumières. Rappelez-vous, Minneapolis, 1888, Il y a plein de fondateurs de l'Église, des vieux adventistes, qui étaient tout à fait opposés à ce que Wagoner et Jones sont venus présenter. Et Sir White a pris la défense de ces jeunes en disant, vous les vieux, vous êtes sclérosés, vous devez évoluer. Même les membres importants dans l'Église, même ceux qu'on appelle des leaders, ont besoin de lumière plus grande. Et pendant au moins 14 ans, de 1889, suite à cette conférence générale de 1888, donc de 1889 à 1903, Ellen White ne va pas cesser d'insister fortement sur la nature progressive de la vérité. Elle nous dit que nous ne devons pas nous faire de soucis si on se rend compte que quelque chose que nous avons cru pendant longtemps se révèle inadéquat. Je rappelle ces mots si importants. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de leçons à apprendre et beaucoup, beaucoup d'autres à désapprendre. Seul Dieu et les cieux sont infaillibles. Ceux qui pensent qu'ils n'auront jamais à changer d'avis, à abandonner un point de vue qui les chérisse, seront déçus. On parle des croyances fondamentales des adventistes. Est-ce que c'est un paquet qui est fixe, déterminé pour l'éternité? L'Église adventiste s'est toujours défendue d'avoir des doctrines, parce qu'elle voulait garder sa relation vivante avec l'Église. Mais au cours des âges, au cours des années, on a eu tendance à quand même un petit peu limiter les choses. Vous savez que l'année passée, à la conférence générale, on a décidé de créer des comités pour juger en quelque sorte ceux qui ne seraient pas fidèles à ces 28 croyances fondamentales. On appelle ça les compliance committees. J'ai lu hier soir que ces comités ne se sont jamais réunis et qu'un autre comité qui prépare maintenant la conférence générale qui a lieu au mois d'octobre. Donc là, au mois d'octobre, c'est la grande réunion avec tous les présidents d'union du monde entier. Donc le comité qui propose les points à mettre à l'ordre du jour va soumettre une proposition de retirer l'existence de ces fameux comités de compliance. Beaucoup de choses à apprendre et beaucoup, beaucoup à désapprendre. Et Ellen White elle-même a changé d'avis sur plein de problèmes importants. Au début de son ministère, au début de notre Église, on parlait de la doctrine ou de la croyance de la porte ouverte, disant que les gens avaient jusqu'à une certaine date pour se convertir et qu'après cette date, c'était fini, que plus personne ne pourrait rentrer dans le royaume des cieux. Madame White a complètement oublié et nié cette doctrine en s'ouvrant, en disant que le salut était toujours disponible. Un autre exemple. Dans leur message aux hommes, les anges de Dieu représentent le temps comme étant très court. C'est ainsi qu'il m'a toujours été présenté. Il est vrai que le temps a duré plus longtemps que nous ne nous y attendions dans les débuts de ce mouvement. Notre Sauveur n'est pas revenu aussi tôt que nous l'espérions. Mais la parole du Seigneur s'est-elle trompée? Jamais. Il faudrait se rappeler que les promesses et les menaces de Dieu sont pareillement conditionnelles. Elle a changé d'avis à ce propos-là. Les premiers pionniers disaient « Jésus va revenir de notre vivant ». Et moi, j'ai encore entendu des gens dire ça il n'y a pas si longtemps que ça. On n'en sait rien. Et Sir White a abandonné. Elle dit « Les choses tardent, mais accueillons les choses qui tardent ». Il ne faut pas se fixer sur un point de vue qui, visiblement, était tout à fait faux. Appel à réfléchir, à étudier, à discuter, à remettre en question, à échanger, à creuser les Écritures. C'est bien, mais cela a un risque aussi, c'est celui de se tromper, parce qu'on peut encore se tromper maintenant. Et je voudrais terminer en vous citant une dernière citation de Madame White concernant la prière. À quoi servent nos prières? Nos prières ne sont pas un moyen de persuader Dieu, ni de modifier les projets ou ses actions, puisque Dieu est déjà désireux de tout faire pour bénir tous les humains. Et voici ce qu'elle dit. Prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu comme à un ami. Non pas parce qu'il faut lui faire savoir qui nous sommes, mais pour nous rendre capables de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu à nous, mais nous élève à lui. Voilà une déclaration qui m'a l'air particulièrement importante. Je la relis. Prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu comme à un ami, non parce qu'il faut lui faire savoir qui nous sommes, mais pour nous rendre capables de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu à nous, mais nous élève à lui. Ce que nos prières peuvent accomplir, c'est de nous modifier, de nous rendre plus réceptifs à la parole de Dieu, de nous rendre plus clairvoyants, de nous aider à nous mettre à sa disposition pour notre bien et pour celui des autres. Je crois que nous avons souvent une mauvaise image, une fausse image de Madame White, que nous voyons comme ayant des croyances immuables, anciennes, vieillottes, alors qu'en fait, elle a beaucoup, beaucoup évolué pendant son ministère et qu'elle a adopté des positions extrêmement ouvertes, comme vous l'avez vu, en nous invitant à ne pas rester fixés aux opinions des pionniers, mais à toujours remettre en question, réfléchir, creuser la parole de Dieu pour y trouver du neuf. Sans oublier de prier Dieu pour nous guider sur ce chemin. Amen.